18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes mardi 22 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Aujourd'hui est un jour particulier, en fait les 18 ans de Radio U. Si Radio U était un être humain, il pourrait officiellement boire de l'alcool, avec modération bien sûr, conduire une voiture, voter, être emprisonné et avoir un Rottweiler. Mais Radio U n'est pas un être humain, ce sont des êtres humains qui, chacun à leur manière, ont contribué à l'histoire de cette radio brestoise. Et pour cette émission spéciale, nous ne serons pas seuls. Certains de ces humains sont revenus en studio, le temps de nous raconter, un micro à la main, leur expérience à Radio U. Ils évoqueront leurs souvenirs, mais également leurs anecdotes croustillantes. À nos côtés, Pascal Camus, Gabriel Pichon, Steven Flock et Morgane Durand-Bach. Nous avons aussi eu au téléphone Christophe Piton, Loïc Digard et Rémi Tanguy. Nous les présenterons chacun plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, on commence en musique avec un extrait de Stone Temple Pilots. C'était The Crips de Stone Temple Pilots, la toute première chanson diffusée par Radio U en 2001. Nous allons d'ailleurs tout de suite commencer avec une présentation par le grand, le seul, l'unique Christophe Piton, un des fondateurs de la radio.
Bonjour Christophe Piton.
Bonjour.
Tu es un des deux fondateurs de Radio U. Quel était ton surnom à l'antenne ?
Ah oui, bonne question. Mon pseudo, c'était Axel de base.
Et combien d'années as-tu passé donc à Radio U à Brest ?
Alors, moi j'ai passé, on va dire, 3 ans. Une première année à mettre en place le projet et faire naître la radio, donc un an de préparation à peu près, et ensuite 2 années à l'antenne, donc grosso modo pour être là quasiment tous les jours dans les locaux et faire tourner la boutique.
Et durant ces 3 années, quelles ont été tes fonctions dans l'association donc Radio U ?
La première année, l'association n'existait pas encore, parce qu'on était avec Pierre, l'autre fondateur. On n'avait pas de fonction au sein de l'association, puisqu'elle n'existait pas, mais on était tous les deux co-directeurs d'antenne et co-fondateurs de la radio. Et la deuxième année, donc ça nous emmène, je pense, en 2002. On a créé une association spécifique pour gagner en autonomie. Et là, je suis devenu vice-président de l'association et aussi directeur d'antenne de la radio.
Pascal Camus, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été directeur de la cité universitaire Kerguat en 2001 et vous avez contribué à la naissance de Radio U. Quel souvenir avez-vous de ces prémices de la création de la radio ?
Déjà, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité. C'est vrai que ça fait plaisir de revenir dans ces locaux. Je voudrais aussi saluer, j'espère qu'il m'écoute, Axel de base. Ce que je me souviens, en fait, c'est la venue de Pierre dans mon bureau, Pierre Chérousseau, et de mémoire, je crois que c'était un projet qu'il avait, mais dans le cadre de ses études. Ça n'avait strictement rien à voir. Et je garde ce souvenir-là parce que, bon, on va peut-être en reparler par la suite, on ne va pas faire les anciens combattants. Déjà, quand j'ai eu votre invitation, 18 ans quand même, hein, ça, on prend une claque, le temps passe. Et déjà, la grande satisfaction, je dirais, j'en ai deux, c'est d'avoir contribué effectivement, en toute humilité, à ce que cette radio naisse et qu'elle soit dans ses locaux, parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et surtout, c'est de voir que 18 ans après, quand je vois ce que je vois autour de moi, eh ben, je veux dire, c'est une véritable réussite et je pense que c'est une grande fierté pour moi d'avoir contribué à ce projet.
Parfait, merci beaucoup. Quelles ont été les premières émissions imaginées et créées par les fondateurs ? Christophe nous en a parlé tout à l'heure.
Il y en a eu beaucoup. Il y a eu on avait une émission avec Pierre qui, lui, à l'époque, s'appelait à l'antenne Gilles d'Oléron, parce qu'on aimait bien les jeux de mots, en plus, dans les pseudos. On avait une émission le lundi soir qui s'appelait Le Bonjour d'Albert. C'était une émission d'actualité dans laquelle on donnait beaucoup la parole aux associations, que ce soit des associations étudiantes ou des associations culturelles. Ensuite, j'avais une autre émission, moi, le mardi soir, en fin de soirée, qui s'appelait U comme humour. C'était une émission qui se voulait rigolote. Bon, je pense que ça faisait surtout marrer nous-mêmes, mais on était contents, on faisait des imitations pourries, on faisait des parodies de tubes à la guitare, donc ça nous faisait bien rigoler. Et puis, il y avait aussi l'émission C'est vous le qu'il dit, qu'on avait créée donc, dès le début pour... essayer de transporter le studio, transporter l'antenne dans différents endroits dès qu'il se passait quelque chose dans la vie étudiante ou vie culturelle brestoise. Ben, on déplaçait un petit studio et puis on faisait une émission en direct ou presque de ces lieux-là. Et puis la deuxième année d'antenne, pour moi, j'ai eu une drôle d'idée. C'était celle de créer une matinale donc avec une émission qui s'appelait « La tête dans le U ». Donc, il fallait se lever hyper tôt. C'était pas spécialement évident tous les matins. Donc, mais c'était une émission de réveil, de bonne humeur. J'avais la chance d'habiter à la cité de Kerguat. Donc, j'étais presque voisin des studios. Donc, c'était assez pratique pour moi. Mais voilà, grosso modo, tout ce que j'ai pu faire à l'antenne.
Tu disais que l'émission C'est vous qui le dites, donc qui existe toujours depuis donc 2002. Au début, elle était tous les jours. Quel était son format ?
Alors de mémoire, c'était une émission hebdo qui devait durer une heure. L'idée de C'est vous qui le dites, initialement, c'était vraiment ça. On avait une petite table de mixage, quelques micros, et on allait enregistrer une émission. On l'avait fait dans un bistrot, on l'avait fait au salon Azimut, on l'avait fait dans des salons. Dédié à la jeunesse, et donc une fois par semaine, on avait cette émission qui était enregistrée en extérieur. On n'avait pas du tout les moyens de duplex à l'époque, on n'avait pas même internet dans le studio, c'était galère, donc C'était une époque où on avait des moyens différents. Quand on faisait des duplex, on les faisait d'une cabine téléphonique. Voilà, je pense que les auditeurs d'aujourd'hui n'ont pas connu toute cette époque-là. Ça fait un peu vieux con de dire ça, mais voilà. Et ensuite, ouais, l'émission est devenue quotidienne dans les premières années aussi, et avec des invités, avec vraiment une place donnée à la parole et à la découverte.
Et l'émission C'est vous qui le dites, on la rappelle, désormais en 2019, elle a changé un petit peu de format, et donc on nous retrouve du lundi au jeudi de 18h à 19h toujours. Gabrielle Pichon, bonjour.
Bonjour.
Tu as été en service civique en communication à Radio U en 2010. Quel souvenir des émissions tu gardes ?
Des souvenirs d'émissions. Alors, il se trouve qu'au départ, moi, j'étais beaucoup dans les bureaux pour organiser les 10 ans de Radio U, essentiellement. Et j'avais la possibilité d'animer des petites chroniques aussi ponctuellement. Donc, j'étais plutôt auditrice de Radio U à ce moment-là. Mais je me rappelle de beaucoup de joie, de beaucoup de choses faites à la dernière minute, de précipitations, de relations avec les associations locales, les culturelles, enfin la vie brestoise, et oui, beaucoup d'émulsions.
Et Stéphane Flock, bonjour.
Bonjour.
Tu as été dans l'organisation de Radio U et président en 2007. J'ai voulu te rajeunir, désolé.
C'est gentil, merci.
Comment t'es-tu approprié le projet ? Quelle a été ta contribution ?
Au départ, juste animateur, tout simplement. J'ai commencé par là. Et finalement, l'envie de s'impliquer dans l'association s'est fait très rapidement. Donc j'ai commencé à être membre du conseil d'administration, puis vice-secrétaire ou je ne sais quoi, après trésorier, président, et ainsi de suite. Et il se trouve que dans une de mes années de présidence, je crois que j'en ai fait deux, c'est tombé donc sur cette année 2007. Là, on s'est posé énormément la question pendant très longtemps, notamment avec d'anciens présidents de Radio, Alan Carlor par exemple, de la problématique de la fréquence permanente. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'à l'époque, la radio n'émettait que 9 mois sur 12. Donc pendant 3 mois, il y avait un blanc. Plus rien. Et on reprenait comme ça, on faisait une fête aussi radiophonique avec une émission particulière pour relancer la saison, puis ainsi de suite. Mais non, ça, il manquait quelque chose pendant ces quelques mois, surtout c'était les mois d'été, les mois des festivals. Il y avait quand même beaucoup de choses à évoquer. Donc sur cette présidence, ben, le gros chantier, c'était cette fréquence permanente qui était réellement quelque chose d'une ampleur pour cette petite structure assez conséquente, parce qu'il fallait changer tout le matériel, il fallait faire un gros dossier auprès du CSA, évidemment. Donc voilà, je suis content qu'on ait pu réussir à faire ce beau projet, et ça a aidé surtout. L'idée derrière ça, c'était de pérenniser la radio, puisque ça allait permettre plus de subventions, et surtout apporter, à l'époque, on rêvait de ces emplois salariés à la radio, parce que les forces bénévoles, c'est très bien, mais c'est lourd, c'est fluctuant, donc on n'est jamais sûr de pouvoir avoir des forces vives chaque année. Alors que les salariés permettaient d'avoir de se reposer sur eux, et finalement pour les bénévoles, de faire le plus évident, c'est de faire des émissions.
Ce qui veut dire qu'avant 2007, il n'y avait pas de fréquence permanente. Il y a donc eu un énorme projet qui a été construit. Christophe Piton nous en a parlé.
Avec Pierre Chirousseau, avec qui on avait créé la radio, on était des résidents de la CTU de Kerguat. Et auparavant, on avait été responsable du club de théâtre de la CTU. Et puis, à un moment donné, on avait envie d'autre chose. Et c'est même Pierre qui avait eu l'idée à la base de créer un média pour les étudiants, sachant que ça n'existait pas encore à l'époque à Brest. Et donc, il y avait cette idée-là de mettre en avant la vie étudiante, la vie associative, la vie culturelle. Qui a vécu à Brest sait qu'il se passe toujours quelque chose, et pas que dans les bistrots. Il y a toujours un concert, il y a toujours une expo, il y a toujours une asso qui organise quelque chose. Donc, on savait dès le départ qu'on aurait de la matière. On savait aussi que la vie étudiante était super riche. Il y avait tout le temps des événements, tout le temps des soirées, tout le temps des choses à faire sur les campus à Brest. Donc On savait qu'on avait la matière, on savait qu'on avait une envie de partager tout ça. Et donc l'idée de créer une radio est venue assez naturellement.
Et la musique a toujours été le cœur de ce projet radiophonique ?
Ah bah oui, 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 parce que quand je parle d'activité culturelle, je pense notamment aux concerts et plein de petits groupes qui fleurissent ici ou là. Beaucoup de rock hein, à l'époque. Je sais pas si c'est toujours le cas à Brest, mais beaucoup plus de rock que d'électro en tout cas. Et donc là c'est pareil, on a invité des groupes, on en faisait découvrir aussi. Dès le départ, on a noué des partenariats avec différents festivals de Bretagne ou d'ailleurs. Je me souviens de la Route du Rock, des trans musicales où on avait des envoyés spéciaux qui allaient tous les ans. Donc on allait faire des interviews d'artistes qui étaient en tournée à Brest. Et puis après, avec l'aide, je dois dire, très importante du Crous, et notamment d'une personne qui s'appelle Yannick Martin, qui travaillait au Crous à l'époque, on a commencé à monter une sorte de festival Radio U, en tout cas de concert Radio U au départ, pour aussi faire connaître ces groupes et les créer du partenariat, si on veut, de la complicité entre des groupes et la radio. Et donc c'était des concerts qui étaient retransmis en live à l'antenne, des interviews des artistes et tout. C'était tout naturel, parce que à Brest il y a une scène très importante, en Bretagne aussi, sans toutefois rester fermé sur les groupes bretons ou brestois, mais ça paraissait assez évident de laisser une grande place à la musique à l'antenne.
Pascal Camus, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet et pourquoi est-ce que vous avez décidé de le soutenir ?
Écoutez, déjà, ça me fait plaisir d'entendre Christophe, et il a dit c'était une époque. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas faire jouer les anciens combattants. Je pense que la radio prouve que c'est un peu le pont entre hier, aujourd'hui et vers demain. Mais je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est effectivement, c'est venu du campus, c'est venu de la résidence universitaire de Kerguat. Et la résidence universitaire de Kerguat, c'était, je l'espère que c'est encore aujourd'hui le cas, c'est un lieu de vie. C'est pas un lieu d'études, c'est un lieu de vie. Et Kerguat vivait énormément à l'époque. On avait même, j'appelle ça un village, c'était le village de Kerguat. Même les habitants du village de Lanredec venaient le soir au village de Kerguat pour vivre. Et je crois que ce souvenir, Christophe parlait par exemple du théâtre. C'était un événement extraordinaire. Il y avait la semaine du théâtre au mois d'avril, une semaine complète. Et j'avais vraiment énormément de plaisir, et pas seulement moi, j'avais ma famille aussi qui m'accompagnait, de venir à ces spectacles. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est le sérieux, c'est à la fois la rigolade, c'était la rigolade, mais le sérieux avec lequel les projets étaient menés. Et quand vous aviez effectivement des étudiants comme Christophe, comme Pierre, comme d'autres, on ne pouvait que les soutenir, c'était une chance. C'est pour moi, c'était une chance d'être, alors je l'ai toujours dit, et quand je suis parti, ils m'ont offert un siège de village, je crois. J'étais le maire du village, alors j'étais pas élu, j'étais désigné d'office, mais je peux vous assurer que j'ai passé les meilleurs moments de ma carrière pendant ces 9 ans passés à Kerguat, mais aussi parce que c'était l'époque, voilà. Christophe disait c'était l'époque. Je pense que si la radio est là aujourd'hui, c'est que cette époque a existé. Et encore une fois, Kerguat, c'était vraiment un village où il faisait bon vivre. Et alors il faisait, je ne suis plus aujourd'hui, donc je ne peux parler que d'hier, mais c'est grâce à hier qu'aujourd'hui existe et que cette radio existe, et c'est grâce à la qualité, et encore une fois quand je l'écoute c'est évident, de cet engagement de ces étudiants-là, de l'époque, et qui font que ça a duré, on est effectivement s'inscrit dans la durée, et encore une fois... Je me rappelle avoir été invité à une émission. Alors j'étais très timide parce que le micro m'intimidait, mais de voir ces copains qui rigolaient, mais qui étaient d'un sérieux extraordinaire et d'une compétence extraordinaire. Et je pense que si la radio, effectivement, il a fallu se battre pour qu'il y ait la fréquence, mais ce qui a permis d'obtenir cette fréquence, je dirais, c'était la qualité et le sérieux de ceux qui l'ont créé et qui après l'ont fait vivre.
Et techniquement, comment est-ce que le Crous est intervenu dans ce projet, dans cette création étudiante ?
Alors, je tiens à saluer... quand on exerce au sein des Crous, alors il faut voir d'où viennent les Crous. Hein. C'est des associations étudiantes. Hein. On ne va pas remonter aux années 30. C'est déjà bien de remonter 18 ans en arrière. Mais nous sommes tous, nous étions tous des militants quelque part, et je tiens à saluer André Lebars, directeur de Clouse de l'époque, personne qui m'a formé et qui nous a beaucoup accompagnés les uns et les autres, et je pense que je regarde à travers la vitre les collègues qui sont là aujourd'hui, qui y pensent fortement, qui a apporté toute sa crédibilité, toute sa force pour que ce projet puisse vivre et exister. Alors, après, il a fallu, en arrivant ici, je regardais sur le toit, je regardais l'antenne, je repense à M. Tromelin, il a fallu qu'on le motive beaucoup, mais il était très heureux de mettre cette antenne sur le toit. Déjà là, c'était vraiment un sacré enjeu. Après, il a fallu acheter la console. Il a fallu aussi créer les locaux, donner les locaux, mettre les locaux à disposition. Ce qui me vient à l'esprit, c'était qu'avec avec rien, on faisait beaucoup. Mais parce que les étudiants étaient très très motivés et nous donnaient l'envie. Et pour nous, c'était un vrai plaisir. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si on aura le temps de parler d'aujourd'hui, mais on a ce qu'on appelle la contribution de la vie étudiante et de campus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les moyens, je pense. On aurait les moyens, on aurait beaucoup. Peut-être qu'il manquerait peut-être le petit rien pour avancer encore un peu plus. Mais voilà, ce qui a fait le charme de l'époque, c'est qu'avec pas grand-chose, avec l'humain, on pouvait avancer très loin, et ça grâce à des personnes qui étaient aux bonnes places, et notamment je salue André Lebars.
Alors on me fait signe, apparemment il y a quelqu'un au téléphone pour nous. Et qui manifestement a raccroché. Eh bien, c'est pas grave, peut-être qu'il rappellera plus tard. Stéphane Flack, je vous ai vu acquiescer à ce que Pascal Camus disait. Ça vous rappelle des souvenirs, tout ça ?
Alors, oui, évidemment. Évidemment, surtout cette époque, le fait de briques et de broc, ça, indéniablement, parce qu'on a commencé avec beaucoup d'énergie humaine et peu de moyens. Et maintenant, on est avec beaucoup d'énergie humaine et beaucoup plus de moyens. Donc ça, c'est beaucoup plus confortable. Mais oui, on se souvient de ces émissions bricolées, de ces... déjà, la première année, effectivement, il n'y avait que quelques plages horaires d'émissions, mais même pas de musique. Après, finalement, on a commencé à acheter un ordinateur qui a pu permettre de diffuser de la musique en permanence, et on l'a changé peut-être 10 fois dans une année aussi, parce que ça, bon, voilà, 24 heures sur 24, c'était trop pour les ordinateurs de l'époque. Donc oui, c'est ça, c'est ces personnes aussi évoquées par Pascal Camus, évidemment, André Lebars, et puis Pascal Camus, qui est à côté de moi, on avait quand même donné son nom au studio, l'ancien studio, maintenant. Je ne sais pas si le nouveau aura un nouveau nom, mais bon, voilà, non, c'était effectivement, sans ces personnes, Yannick Martin, ça n'aurait pas pu voir le jour. Donc, et les premiers temps, bah oui, c'est ça, c'est ce qu'on retient, c'est... C'était quoi ? C'était cette nappe magnifiquement old school sur la table du studio. Donc, sortie par la grand-mère de Christophe ou je ne sais qui. Et qui nous faisait marrer, mais voilà, quand les groupes, les invités venaient, il y avait cette superbe nappe ridicule. Mais nous, voilà, c'était drôle. Et c'était, encore une fois, beaucoup, beaucoup d'investissements de personnes et qui ont, lancé la machine.
Gabriel Pichon, je te vois sourire aussi. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que t'as connu un petit peu justement ce créer des partenariats, faire connaître la radio?
Oui, alors moi je suis arrivée chez Radio U, à Radio U, bien après cette période-là. Donc ce que j'entends aussi, c'est tout cet héritage et cette transmission qui a perduré à travers les années. Et quand je suis arrivée, moi il y avait quelque chose d'assez confortable, c'est que l'antenne existait déjà. Les émissions existaient et il y avait des nouvelles choses à créer. Et la contribution peut-être qu'on a à ce moment-là apportée, c'était sur du contenu, de la création de contenu, et développer effectivement des partenariats avec aussi un nouvel axe qui était de l'éducation aux médias auprès de publics scolaires notamment. Et ça, c'est des choses qu'on a pu développer parce qu'il y avait tout ce travail qui avait été fait depuis une dizaine d'années et qui avait été bien transmis. Et je pense que ça me fait vraiment plaisir d'entendre toutes ces histoires que je n'ai pas vécues, mais où je me dis, vous allez en plus aussi vivre des choses pendant les prochaines années. Et il y a vraiment cette question d'héritage que je trouve très belle dans cette histoire.
Effectivement, la radio s'est peu à peu composée de bénévoles pour animer les programmes. Comme Loïc Digard, on l'écoute nous parler de son expérience.
Bonjour à tous, donc moi c'est Loïc Digard. J'ai été sur Radio U de 2001 à 2008. Juste après mon bac, donc à 17 ans, j'étais le petit jeune à l'époque. Donc j'ai commencé par
présenter une émission de journalisme, Écho de la rue, avec des copains de fac d'histoire que j'avais ramenés avec moi. Cette émission a duré un an, et entre 2002 et 2007, j'ai présenté Rock et Podium. Donc c'était une émission avec du rock et des jeux de mots pourris, bien sûr. Voilà, c'était une heure hebdomadaire, tous les mardis soirs. J'ai eu comme co-animateur Steve, qui est toujours présent dans la radio, et puis Julien, qui est connu par certains Brestois, puisqu'il joue dans un groupe qui s'appelle Wario Loutra Loutra, qui est désormais à Berlin. Ça a été 5 années de rigolade. Parallèlement à ça, on a fait des matinales avec les copains, puisque j'habitais à la cité Cargouette sur le lieu de la radio. Donc c'était un petit passage obligé. Donc on faisait des blagues sur la météo, on parlait des nouvelles du jour, des sorties culturelles à faire dans le coin. Et tous les lundis, on faisait la fameuse parodie Radio U. Donc on transformait les paroles d'un tube. C'était souvent très vulgaire et très amusant. Et puis bien sûr, comme je ne savais pas jouer de la guitare, on massacrait le tout allègrement. Voilà, j'ai encore des copains qui m'en parlent. Dernière année, j'ai tenté une émission littéraire, pause lecture. Donc je lisais, c'était très France Culture, hein. Je lisais des passages d'une œuvre, puis je passais une playlist en fonction pour arriver à une ambiance musicale qui corresponde à l'œuvre. Ça, c'est un peu mon background d'émission. Parallèlement à ça, j'ai fait partie du CA, puis j'étais directeur des programmes pendant une année, chargé de former les nouveaux, de créer une grille cohérente, etc. Donc après, ça a été vraiment des années de souvenirs vraiment drôles, qui étaient aussi mélangées avec mes années fac. Plein de souvenirs qui sont difficiles à résumer. Je me souviens d'un voyage épique aux Eurockéennes, accrédité avec Steven. On avait interviewé Fred de C'est pas sorcier, n'importe quoi. Et mon plus mauvais souvenir, c'est que j'ai perdu le disque de l'interview dans le train. Voilà. Sinon, évidemment, toutes ces parodies, Sting de Travis qui devient String, c'était tellement mauvais que c'était génial. Ce sont parmi mes meilleurs souvenirs.
Je te propose de faire passer une chanson avec une ou plusieurs dédicaces.
Forcément, mettre un petit Machine Pumpkin. C'est le meilleur groupe de tous les temps. Et bah, peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est que ça fait plusieurs années que ça me démange de reprendre une émission, puisque je suis toujours à Brest. Peut-être que ça sera pour cette année ou l'année prochaine. Mais là, j'y pense sérieusement. Et oui, j'ai pas passé tous les bons jours, mais il y a tout le monde qui est dans le studio qui se reconnaîtra.
Today is the greatest day of my life.
C'était Today du groupe de Smashing Pumpkins. Les citrouilles, c'est pour la semaine prochaine dans C'est vous qui le dites, parce qu'aujourd'hui on sort les bougies d'anniversaire pour les 18 ans de Radio U. 18 ans de locaux, de musique, de direct, de technique. Christophe Piton, un des deux fondateurs, nous en parle.
Au départ, on avait un seul local qui était composé de la régie et du studio. Et petit à petit, on a réussi avec la complicité de la Cité U de Kerguat à faire agrandir les locaux. La deuxième année, on a eu un bureau en plus dans lequel on pouvait gérer tout ce qui était administration de la radio, donc le côté paperasse, le côté recherche de financement. On pouvait aussi recevoir les animateurs qui voulaient présenter des projets d'émissions, donc c'était assez pratique de ce côté-là. Puis, petit à petit, dans ces espaces en plus du studio, on avait monté un petit bureau de production pour que les gens puissent faire du montage, fabriquer leurs habillages et tout ça. Pour ce qui était des enregistrements en extérieur, on faisait beaucoup de choses au mini-disque. Je pense pas que ça existe encore des masses, les mini-disques, mais c'était comme des tout petits CD dans des toutes petites boîtes en plastique, genre 6 cm de diamètre. Donc c'était un truc qui fonctionnait vachement bien à l'époque. On faisait peu de MP3 ou d'enregistrements sur des clés USB ou tout ça. Et donc, on avait des moyens assez réduits. On enregistrait les émissions sur des VHF avec un magnétoscope longue durée, ce qui fait qu'on arrivait à enregistrer jusqu'à 4 heures sur une même VHS. On était tenu d'enregistrer toutes les émissions pour les contraintes CSA, autorisation d'émettre et tout ça. Côté technique, il y a même une petite anecdote qui est rigolote, c'est que l'antenne, elle avait été installée quelques jours avant le premier jour d'émission et quelques minutes même avant de démarrer la première édition. Ça devait être aux alentours de 14h, je pense, le 22 octobre 2001. Tout n'était pas branché, ça marchait pas, ça n'émettait pas. Donc on a eu des petites sueurs froides à l'époque et on avait un installateur d'antenne qui était assez... un peu clownesque, très sympa, mais assez étonnant comme personnage. Et du coup, on a eu un peu de stress au début. On avait peur que la technique nous empêche d'émettre. Et finalement, ça s'est fait et ça s'est jamais arrêté.
Steven, je vous voyais acquiescer pendant l'enregistrement. Vous vous souvenez de ce moment-là?
Les premiers déboires sur effectivement l'installation propre au studio, un petit peu. En tout cas, on a tous entendu parler de Monsieur Tromelin et le service après vente était un peu limite, mais bon, bref, passons. Non, je voulais surtout réagir sur effectivement cette phase, finalement 18 ans, la technologie n'a cessé d'évoluer, c'est assez impressionnant, et je sais pas pourquoi ça m'est revenu, c'est le premier finalement direct en dehors des studios, et effectivement c'était un grand moment, c'était à plein feu sur la jeunesse à la mairie, c'était juste une après-midi. Ça a été compliqué de mettre en place, mais ça s'était super bien passé. Alors, on était tous ravis. Une semaine après, il y avait le Festival du film court de Brest, qui se déroulait au Quartz. On disait, super banco, on va pouvoir refaire la même. Et là, sur la semaine d'émission prévue, on avait peut-être réussi à faire une ou deux, parce que là, c'était pas du tout pareil. Comme quoi, les techniques étaient propres à chaque endroit aussi, enfin, les accès Internet et compagnie, c'était pas aussi évident que maintenant, donc voilà, c'était juste ça. Mais ouais, cette émotion d'avoir fait un direct en dehors des studios, courant 2005-2006 à peu près.
Pascal Camus, vous qui étiez ici, sur place, à la Cité U du Kerguat, vous avez vu aussi cette évolution, je présume, cette évolution technique?
Oui, tout à fait. Effectivement, je me souviens, effectivement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, l'antenne, voilà, c'est tout, c'est plus qu'un symbole. Et c'est vrai que ça a été assez folklorique, et je crois que le premier à parler dans le micro, ça a été le président Apriou, et c'est vrai qu'il a failli parler dans le vide. Mais voilà, c'était tout un problème. Non, je pense que ce qui a été une grande satisfaction, effectivement, c'est la problématique de l'inquiétude au départ, c'est-à-dire qu'on investissait de plus en plus, on avait une énorme confiance aux étudiants, et on parle des étudiants parce qu'à l'époque c'était des étudiants, maintenant on est effectivement sur la jeunesse au sens large, mais c'est vrai que la responsabilité, c'était la durée, quoi. C'est-à-dire investir, mais il fallait que la transmission se fasse, quoi. Et ce que sur les années à venir, puisque moi je suis parti donc en 2003, mais après avec ma collègue, on a suivi ça de très près. Effectivement, c'est la grande satisfaction de voir qu'il y a eu toujours quelqu'un pour prendre le témoin, et puis dans le cadre d'un collectif qui ne s'est jamais démenti. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, très tôt, on a été très très satisfaits et heureux de voir que la radio avait de l'avenir.
Gabriel Pichon, vous êtes arrivé à Radu en 2010 pour un service civique. Mmh. Nous avons beaucoup parlé de l'évolution technique à la création, donc dans les années 2001 à 2005. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez voir des choses qui ont évolué dans les locaux, le matériel, ou pas?
Oui. Oui, je me sens un peu vieille là d'un coup, mais déjà vous avez un nouveau studio avec des très beaux micros, enfin, il y a tout un tas de choses qui, oui, a évolué en quelques années. Après moi, la technique, c'était pas forcément la partie sur laquelle je travaillais le plus, mais je sais qu'il y a un nouveau site internet aussi qui sort, il y a eu un nouveau logo, enfin oui, il y a des choses qui se renouvellent forcément avec le collectif aussi qui s'empare de Radio U et qui à chaque fois le recrée à son image, si ça répond à la question.
Tout à fait. Radio U, c'est bien sûr beaucoup de musique. Antoine a quelques questions sur la programmation musicale qu'il voudrait poser.
Ok, je te remercie. En fait, moi, je vois quand on regarde les grilles des programmes de Radio U au début, on voit que les émissions prennent quasiment toute la place hein, sur la grille. Il y a peu de playlists musicales et du coup, c'était surtout les animateurs qui importaient, qui ramenaient leur propre musique. Par contre, on voit quand même qu'il y a quelques plages horaires sur lesquelles il n'y a pas d'émission de prévu. Comment est-ce qu'on se constituait les playlists musicales? Steven, je te demande, parce que comme tu étais là depuis quasiment le début...
Oui, ouais, puis j'ai été aussi responsable de la programmation musicale, si on peut appeler ça comme ça. Alors déjà, ouais, sur le premier point, c'est l'idée, effectivement, c'était que les grilles, on essayait de combler au maximum que possible les tranches de 17 à 18 heures jusqu'à minuit, 1 heure. Ça, c'était l'idée. On voulait pas de bande musicale à ces heures-là, c'était l'idée d'avoir du contenu. Après, effectivement, ce qui était de façon inhérent à la première année, où il n'y avait pas d'ordinateur pour des playlists. Et finalement, quand l'ordinateur des playlists est arrivé, on s'est dit, bon, c'est bien, mais on va quand même garder du contenu sur les soirées. Après, sur les playlists en elles-mêmes, et ça a été aussi un débat, un gros débat au sein de la structure, c'est qu'effectivement, on avait dissocié la playlist donc, et quelque part l'identité musicale de Radio U des émissions. C'est-à-dire que dans chaque émission, quand le concept était accepté, on pouvait passer ce qu'on voulait. C'était libre. Et par contre, à l'inverse, dans les playlists, on ne pouvait pas mettre n'importe quoi. Et il y a eu quelques années où il y a eu des frictions. Et justement, on avait fait appel aux paroles sages de Pierre Chirousseau et de Christophe Piton, qui avaient fait un courrier pour rappeler quelle était finalement l'idée de départ de Radio U, ce à quoi elle voulait tendre et ce qu'elle devait être finalement musicalement. C'est-à-dire... généraliste dans tous les styles de musique, d'accord, mais pas ce qui passe sur les autres radios. On va être des fricheurs, des nicheurs, voilà, c'est l'idée. Et c'est comme ça qu'on a tous travaillé. Enfin, quand j'ai fait ce petit poste-là, Cyril Billon à l'époque aussi, Yves-Marie Rinquin, on était toujours plusieurs animateurs qui avaient cette connivence et qui avaient cette passion pour la musique. Donc, on s'intéressait à ça, on avait nos émissions, mais on se dit, banco, moi je vais mettre tout ce que je peux, tout ce que j'aime. On n'avait pas, après, ouais, c'était peut-être un peu trop centré sur nos goûts, évidemment. Parce que j'ai remarqué que la radio est beaucoup plus maintenant large, ouverte sur les styles, et puis prend en cœur de recevoir et d'écouter déjà les disques des labels, et de juger, ça c'est passable, ça ne l'est pas.
Ouais, et surtout promouvoir les artistes émergents, c'est surtout là, c'est ça toujours.
Ouais, c'est ça, c'est que effectivement.
L'idée de Radio U, quoi.
On n'avait peut-être pas non plus pleinement conscience au départ de certains critères que finalement qui sont demandés sur les radios classiques, c'est-à-dire tant de quotas de français, tant de quotas de nouveautés, et ainsi de suite. Les quotas, on s'en fichait au départ.
Ils étaient imposés par le CSA.
Oui, mais on n'était pas rigoureux, voilà, en fait. On les connaissait, mais on n'était pas rigoureux. Et ça l'est devenu avec le temps, effectivement. On n'était évidemment pas du tout dans les années des premières radios libres, mais il y avait quand même cette grosse liberté qu'on s'octroyait parce que le projet avait été accepté, il avait été lancé, et puis on avait cette chance.
Alors, il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, sur Radio U, d'annonce ou de désannonce des titres, souvent quand justement ce sont les playlists musicales qui passent. Alors, à l'époque, 2003, 2004, 2005, il n'y avait pas Shazam. Tout le monde n'avait pas forcément accès à Internet pour aller regarder qu'est-ce qui passe en ce moment. Comment ça se passait? Est-ce que vous receviez des courriers d'auditeurs qui vous demandaient « Ah, j'ai entendu un truc à telle heure » Ouais, Gabriel peut-être ou...
Nous, il y avait déjà Internet et peut-être Shazam même en 2010, hein, j'imagine. Mais peut-être pas. C'est mais en tout cas, on avait des coups de fil toutes les heures pour savoir quel était le titre qui était diffusé à 15h16. Et donc, on allait, on remontait le fil de la playlist et puis on donnait la réponse à la main. Ouais.
Et puis des fois, le PC est planté.
C'est ça. Ah,
non, tu es trop tard. Si on m'a demandé ça il y a une heure, je t'aurais répondu. Mais c'est toujours le cas de ce que j'ai remarqué. Et maintenant, grâce au nouveau site fait par Cousumain, je sais pas, on peut le dire, hein, évidemment, il y a cette petite touche très pratique de c'était quoi ce titre. Donc, ben oui, et ça fait plaisir d'entendre que les gens apprécient la musique. Et comme tu disais, il n'y a pas de pub, ça a toujours été, c'était une volonté dès le départ. De se débrouiller, d'avoir un fonctionnement de radio sans faire appel à des annonces commerciales. C'était pas facile parce que je rappelle que les premières années, il y avait des subventions qui n'étaient pas non plus phénoménales et c'était les cotisations des adhérents. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a réussi à monter à une centaine, 120 animateurs. Donc avec une adhésion, ça faisait un petit peu de financement pour la radio, hein. C'est ni plus ni moins. Et les choses ont bien changé grâce finalement à la structure qui a évolué et surtout la fréquence permanente qui a permis plus de subventions. Alors c'est vrai qu'on est très dépendant des subventions. Là, Morgane pourrait peut-être en parler. Je la prends au dépourvu là, mais un petit mot, hein, t'es pas.
Oui, bonsoir. j'enchaîne comme ça, direct sur les subventions. Donc bonsoir, Morgane Durenbach, coordinatrice de Radio U, anciennement service civique et bénévole à Radio U, parce que moi aussi j'ai été bénévole avant d'être d'autres trucs dans l'association. oui, bien sûr, on est dépendant des subventions, c'est sûr, comme toutes les associations. Ça, il n'y a pas de doute. Après, le gros, on va dire, c'est le FSER, hein, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui soutient les 700 et quelques radios associatives en France. C'est le gros du fonctionnement, on va dire. Et après, évidemment, on a le CROUS, avec les locaux et les subventions qu'on a aussi, qui nous soutiennent quand même énormément. L'UBO sur du projet un petit peu aussi. La ville, la métropole aussi, qui nous soutient pas mal. Et tous ces organismes, hein, et la région aussi, qui ont contribué notamment au studio dans lequel on est actuellement. Et au studio dans lequel on était avant aussi. Donc oui, on est très dépendants. Et comme toutes les... Pour l'instant, ça marche. Jusqu'au jour où des politiques publiques, elles peuvent changer et ça met en péril plein de choses. Je pense, sans faire de politique, à la suppression des CAE, par exemple, qui a mis plein d'associations en péril. Nous, c'est sûr que ça a mis un frein éventuellement à une autre embauche qui aurait pu avoir lieu. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais bon... Voilà, on fait avec, on avance, on fait des choses et il y a plein de bénévoles et ça c'est au-delà de toutes ces subventions, c'est toute cette énergie qui est incalculable et inquantifiable et grâce à laquelle on anime des émissions, on anime des plateaux en extérieur, on fait de la programmation musicale et ça c'est sans vouloir faire de politiquement correct, c'est carrément précieux et c'est vraiment le cœur de l'association.
Radio U fut donc imaginé par deux étudiants brestois, on l'a dit tout à l'heure, il y a 18 ans. Mais ce sont les bénévoles qui la font vivre jour et jour, et au jour le jour. Et on s'est posé la question, est-ce que dès la création de Radio U, la radio était ouverte à toutes et tous ou que aux étudiants? Alors Christophe nous y répond.
Tout premier noyau dur, c'était surtout des étudiants, hein, c'est clair, et c'était même surtout majoritairement des résidents. Au tout début, c'était clairement des étudiants, et c'était même majoritairement des résidents de la cité de Carouat, parce que c'est à partir de ce noyau-là que ça s'était créé. Ensuite, petit à petit, il y a des gens qui n'étaient pas encore trop éloignés des études, qui sont venus renforcer l'équipe. Des étudiants, des anciens étudiants, et puis des jeunes adultes qui sont venus aussi sur la base de projets d'émission. Dès lors que le projet était pertinent, qui pouvait représenter un intérêt pour les auditeurs, ils avaient une place, à l'antenne. Ouais.
On l'a dit, Radio U, c'est une belle équipe de bénévoles. Certains restent, d'autres s'en vont, comme Rémi Tanguy. Il garde cependant un beau souvenir de ses années à la radio.
Alors, toute mon histoire avec Radio U, je suis arrivé à Radio U, c'était en 2007, juste au moment où Radio U a eu sa fréquence définitive. J'étais en Master 1, en fac de lettres, donc j'avais beaucoup de temps. Et j'animais pendant un an une émission qui s'appelait La Sélection Bootleg de Funky Belek, une émission musicale où je présentais des mélanges musicaux les plus improbables qui soient. Je suis parti faire un petit bout d'études à Toulon, puis je suis revenu à Brest pour faire mon stage, et puis j'ai trouvé du boulot à Brest. Donc je suis retourné sur Radio U début 2009, il me semble, oui c'est ça. J'ai animé des C'est vous qui le dites, j'ai animé encore une émission bootleg qui s'appelait Le Goudron et la Plume, et puis plein d'autres émissions un petit peu hors série, on va dire. J'ai été président de Radio U pendant un an, et puis vice-président aussi pendant quelques mois. J'ai quitté Radio U en 2011, il me semble. Donc je suis resté un peu plus de 4 ans, je crois, sur Radio U. C'était une très bonne période. J'en ai toujours de très bons souvenirs. C'était beaucoup de boulot aussi. Alors j'ai commencé à Radio U, j'étais étudiant, et puis j'ai continué alors que je travaillais donc à Brest. J'ai eu la chance de pouvoir rester à Brest. Je quittais le boulot, il devait être 5h30, et puis je restais à Radio U jusqu'à minuit, 1h. Bon, j'avais pas de vie de famille à l'époque, donc c'était pratique. Radio U, c'était un petit peu ma famille à ce moment-là. Les petites anecdotes, il y en a plein. Il y a plein d'anecdotes à Radio U, des trucs marrants. Alors, des trucs marrants, je suis retombé, j'ai un petit disque dur avec des archives de Radio U, et je suis retombé il y a pas très longtemps sur une émission qu'on avait fait sur Chatroulette. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'est ou plutôt de ce qu'était Chatroulette. C'était un truc qui est sorti sur internet vers 2010 à peu près. Ça a fait le buzz pendant 2-3 mois, puis après hop, ça a disparu. C'était un chat au hasard. Donc on se connectait sur le site internet, on avait une webcam, un micro, un chat écrit, et on discutait avec n'importe qui, vraiment au hasard, ça tournait. Et on avait fait une émission comme ça un soir, il devait être minuit, à discuter avec des gens sur Chatroulette, des gens du monde entier, et puis évidemment on tombait sur des gros pervers qui aimaient bien se faire voir tout nu. Alors on discutait avec eux, donc les auditeurs n'avaient pas les images, mais on leur décrivait un petit peu ce qui se passait. C'était très rigolo. Je me souviens aussi d'une émission qu'on avait fait pour le 1er avril avec Damien et Gilles, où on avait invité des chanteurs un peu has-been. Il y avait Alan Théo, il y avait Gilles Langoureux, et puis il y avait même Larousseau. Et puis on les interviewait de manière très sérieuse, alors qu'en fait on se foutait clairement de leur gueule. C'était pas très sympa, mais bon, on avait bien rigolé. Des super expériences, c'était les soirées en direct, des soirées en direct de bars, de concerts, de la carène, etc. On avait fait aussi un grand débat politique à l'occasion des élections régionales en 2010. On avait invité toutes les têtes de liste, soit régionales, soit départementales, de tous les partis qui se présentaient au régional de 2010, dans un amphi de la fac de lettres, et on avait fait une émission en direct. À la presse, on était fait l'écho, etc. Et on était tous super fiers de ce débat qui s'était très bien passé. On l'avait préparé en même pas un mois, il me semble. Je sais plus qui avait eu l'idée. On avait tous été super chauds pour le mettre au sein du conseil d'administration. Voilà, donc c'était un très bon moment, ce grand débat. On a organisé un petit peu aussi après le concert des 10 ans de Radio U à la Carène. Il y avait aussi beaucoup de boulot dans l'ombre qu'on n'entendait pas à l'antenne. Je me souviens qu'on avait mis tous un peu la main à la pâte pour construire un nouveau studio en 2010 aussi, il me semble, pour chercher des subventions, faire des dossiers, chercher des subventions à la région, des subventions à la mairie, des subventions au CROUS, à l'université, et puis un petit peu partout. Donc voilà, Radio, c'était une super expérience. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que on a bien bossé, on a bien rigolé, et grâce à Radio U, je dis on parce que je pense que c'est tous les bénévoles depuis 2001. Grâce à Radio U, on arrive à découvrir plein de domaines tout à fait différents. Ça peut être à la fois de l'animation, du journalisme évidemment, mais aussi
de l'organisation, de la gestion de projet, de l'administratif. Voilà, et puis c'est aussi de belles amitiés.
Quelle chanson tu veux faire passer avec une petite dédicace?
Alors moi j'aimerais bien que Radio U joue ce soir Bully du groupe Fortune, parce que c'était un peu le morceau local à la mode aux alentours de 2010 quand j'étais sur Radio U. Un groupe qui tournait beaucoup, qu'on voyait en concert très souvent à Brest et ses alentours et que j'adorais. Et puis je la dédicace à plusieurs anciens de Radio U et je vais en oublier plein, mais désolé d'avance. Déjà dédicace à Brendan, qui a beaucoup fait pour Radio U, qui était là quand je suis arrivé, à Steven aussi, c'est lui qui m'a accueilli sur Radio U en 2007. Un coucou aussi à Damien, à Gilles, à Pierre-Yves, à Gabriel avec qui on animait de super émissions. Et une pensée particulière à Cyril, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. Cyril, qui est un ancien de Radio U, qui a beaucoup fait pour Radio U aussi, qui était là presque au début, qui était programmateur musical de Radio U, qui a organisé des concerts à gauche après le pont, etc. Qui était un talentueux musicien. I'm gonna make some money.
Écoutez toujours la quotidienne de Radio U, c'est vous qui le dites, une émission spéciale 18 ans de la radio. Rémi Tanguy nous disait tout à l'heure que Radio U était une grande famille. Vous êtes d'accord avec ça, Gabriel et Stéphane?
Évidemment, oui. Évidemment.
Oui, et moi, on le salue. Hein. Salut Rémi.
Salut Rémi. Ouais.
C'est lui qui m'a accueilli à la radio et j'ai beaucoup, beaucoup aimé travailler avec lui. J'ai appris plein de choses. Et oui, c'est une grande famille et ça fait plaisir d'entendre ses voix aussi, même si on ne s'est pas vu depuis quasiment, je pense, 7-8 ans pour certains, voire plus longtemps encore pour d'autres. Oui, c'est une famille.
C'est une famille parce que, comme on le disait à l'époque, c'était donc bien avant les salariés, ou le fonctionnement avec les salariés, donc on était tous impliqués, à chacun à son échelle. Donc le simple animateur qui voulait faire juste son émission, et les animateurs plus, c'est-à-dire ceux qui s'investissaient dans la radio. Et donc de passer des heures et des heures, comme il disait, après le boulot, 5h30 jusqu'à minuit, 1h, quasiment toute la semaine, avec les mêmes personnes, ça crée des liens, et effectivement, on a tous fait notre vie, mais on est tous contents de se voir quand on se revoit. Et ouais, c'est quand je repense à ces années-là où j'étais très investi, ouais, c'est ça, c'est des personnes, c'est des musiques, et c'est ça, c'est l'esprit radieux.
Pendant 6 ans, chaque année, vous deviez faire une demande au CSA pour avoir la bande FM, donc vous l'aviez eu en 2007. Quel impact ça a eu pour la radio, cette bande FM permanente, Stéphane?
Alors déjà, administrativement, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque année, on devait refaire une demande, donc de 2001 à 2007. On n'était jamais sûr de l'avoir à nouveau. Bon, ça s'est toujours très bien passé. Mais effectivement, c'était assez lourd, surtout pour des étudiants, de devoir remettre la main sur des papiers, des demandes, des choses assez complexes et lourdes. Bien qu'il y a toujours un dossier, je crois, pour le FSR à remplir chaque année, si je crois que c'est ça, mais qui est assez lourd aussi. Mais bon, il y a moins cette pression. Disons que je pense que, effectivement. Et ce que ça a apporté, c'est une couverture plus large sur la zone de Brest aussi, effectivement. Plus de nouvel émetteur, plus de puissance, donc on va plus loin. Et surtout une crédibilité. Je pense qu'on était vraiment à la recherche d'une crédibilité sur le paysage brestois radiophonique, parce que effectivement, on n'émettant que 9 mois sur 12, le reste du temps, il y a du blanc, c'est quoi Radio U, c'est qui Radio U, voilà, là au moins, effectivement, on était plus sérieux, plus crédible.
Puis la radio a pu embaucher des salariés, ou même des services civiques. Gabriel, est-ce que ça a permis de rendre la radio, on peut dire, plus sérieuse, plus professionnelle?
Voilà. Peut-être, en tout cas, ça a permis d'avoir des personnes qui étaient dédiées, qui avaient un temps dédié à de la création de contenu, à du suivi de dossiers, et sur un temps qui n'était pas uniquement bénévole. Donc oui, forcément, ça a permis aussi de standardiser un peu les choses, de pérenniser des projets et d'avoir une transmission. Après, c'est toujours la volonté des équipes pour se faire rendre sérieux auprès des institutions. Mais en tout cas, ça a été un super outil. Et ça l'est encore.
Stéphane, vous vouliez réagir? Vous avez vu acquiescer?
Ah oui, c'est complètement ça. Effectivement, les bénévoles, sur ces premières années, encore une fois, moi je suis arrivé en 2002 et on va dire 2003 déjà, je crois, impliqué sur le conseil d'administration. Et c'est qu'évidemment, c'est épuisant. C'est épuisant de gérer cette association, ce média. Et on en parlait entre nous, c'est touche à tout, quoi. Parce qu'en plus, on a voulu faire beaucoup de choses, des concerts, donc du contenu radiophonique, cet aspect administratif. Quand on n'est que simple bénévole, c'est lourd. Et avec le temps, effectivement, c'était posé la question d'avoir des salariés, alors, ce qui n'a pas été évident. D'ailleurs, la première année, donc tu disais, c'était toi la première salariée, donc c'était en 2011.
J'ai dû être salariée, ouais, 2012-2013, mais ça n'a pas duré longtemps.
Donc, plus de 10 ans après la création de la radio. Et donc ça montre bien que ça a été un chemin long, compliqué, pour se faire accepter, reconnaître et pris au sérieux, quelque part. Et oui. Les services civiques, en plus des salariés, c'est évidemment un confort, encore une fois, pour le bénévole qui veut s'impliquer simplement dans cette émission. Il n'a pas tout ce stress, parce qu'effectivement, on repérait les éléments en disant « tu veux pas venir avec nous faire donner un coup de main ?» Puis finalement, le coup de main, il devient de plus en plus compliqué.
Chronophage.
Exactement. Et donc c'est vraiment bon, très bon pour l'organisation, la gestion de la radio.
Je voudrais un petit peu réagir par rapport à ça. Effectivement, c'était très important et c'est très important de s'inscrire dans la durée et puis effectivement d'évoluer avec son temps. Mais je voudrais revenir, vous avez parlé de famille tout à l'heure, je pense que si Radio U est née, entre guillemets, elle est née au sein d'une famille déjà. Je pense que c'est important de le rappeler parce que je parlais tout à l'heure de lieu de vie. En fait, ça va au-delà de la notion d'étudiant. La résidence universitaire de Kerguez, c'était un village, encore une fois, c'était un lieu de vie. Ça vivait énormément. Il y avait beaucoup de contacts, beaucoup de contacts humains, et pas seulement avec des étudiants. Je pense que c'était ouvert. Quand on parlait de théâtre tout à l'heure, dans la salle à côté, il y avait c'était 200 personnes qui se rassemblaient. Il y avait des soirées-concerts. Il y avait des soirées aussi dansantes. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était de la vie, de la vraie vie, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être plus professionnel aujourd'hui, beaucoup plus structuré, mais il faut regarder ce qu'il y a autour de nous. Et je crois que la radio, son vrai challenge, c'est de contribuer à créer du lien. Il y a eu un événement, puisque bon, là c'est un événement heureux, et qui reste un excellent souvenir pour moi, en tout cas professionnel, c'est ce 22 octobre 2001, surtout quand on a réussi à, quand on a constaté que l'antenne de Monsieur Tromelin émettait. C'était très important, et je voudrais relier ça, et c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais un moment très triste, c'est un an après pratiquement, c'était le 7 février 2002 avec le drame de Pinfeld. Et je pense que ce drame de Pinfeld, il a interpellé, enfin en tout cas moi il m'a beaucoup interpellé, c'est de se dire voilà, on est dans une ville universitaire, une ville de jeunes, et il faut créer du lien, il faut créer des activités, enfin, il faut que ça soit l'université, c'est pas seulement des cours. Voilà. Et après, effectivement, s'ouvrir à tous. Mais je crois que voilà, ces deux dates, pour moi, sont fondamentales, quoi. Voilà. Donc, rappeler quand même que si Radio U est devenue une famille, est une famille, c'est qu'elle est née au sein d'une famille et d'un collectif.
Morgane et Gabriel, vous avez été toutes les deux en service civique et salariés de l'association de Radio U. Peut-être pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez continué cet engagement après votre service civique et votre emploi. Morgane, si vous voulez commencer.
Je t'en prie.
Ok. Donc, moi, c'est vraiment toujours été un concours de hasard, en fait. Déjà, l'arrivée en tant que bénévole à Radio U, c'était... J'étais sur un banc à Ségalin, à la fac de lettres, et il y a un gars qui est arrivé, qui connaissait la fille qui était à côté de moi, qui m'a dit « Ouais, tu veux pas faire une émission de cinéma ? Demain, on parle de Black Swan à la radio. » J'ai dit okay, je vais venir. Et je suis restée. Et je suis restée bénévole plusieurs années en parallèle de mes études. Et il s'est trouvé que juste au moment où j'ai obtenu mon diplôme à la fac, il y avait une recherche de service civique à l'époque. Je me souviens, Gabrielle faisait partie des gens qui m'ont fait passer mon entretien
pour être recrutée.
Tu étais ma tutrice, tout à fait. Donc j'ai passé cet entretien, j'ai été recrutée, et pendant 9 mois, en fait, j'étais à la fois animatrice de la quotidienne, mais en plus j'étais bénévole à côté parce que je faisais toujours les émissions que je faisais avant. Je pense que je devais faire un bon 9 heures d'antenne par semaine. Je passais ma vie à la radio. Et bah forcément, à s'investir comme ça, tout d'un coup, une année, c'est dur de partir après et de se dire bah, « je laisse tout derrière moi ». Je pense qu'on a compris que voilà, on se laisse prendre au jeu. Et puis en effet, il y a une équipe, il y a une famille autour de soi. Donc, on a pas envie de partir, en fait. On a envie de continuer et de faire avancer le projet et de s'investir. Donc comme à l'époque il y a eu un renouvellement de CA aussi à la fin de mon service civique, je pense que ça a été soulevé tout à l'heure, hein, tout le monde donne beaucoup de son temps quand il n'y avait pas encore de salarié à Radio U, c'est pour le CA de l'époque, c'était très très lourd de porter les dossiers, de porter tout ça, c'était beaucoup beaucoup de travail, parce que gérer une radio associative, c'est gérer une association, mais c'est aussi gérer une radio, et ces deux aspects-là administratifs, ils sont très lourds à porter. Donc voilà, il y avait beaucoup de renouvellement dans le CA, et c'est normal, parce qu'il fallait les porter, ces dossiers-là, quoi. Et à un moment donné, voilà, c'est bien de passer la main aussi. Donc, moi, j'ai été recrutée, en fait, j'ai fait partie du CA, j'ai été présidente. Et puis, finalement, chemin faisant, on s'est dit, c'était quand même bien de créer, d'essayer de retenter, voilà, de créer un poste de coordination, parce qu'on avait réussi à créer un poste, Gabriel pourra peut-être en parler aussi de communication, et donc créer un poste de coordination, c'était un peu nécessaire justement pour dégager, en fait, ce qui a été soulevé tout à l'heure, en fait, pour dégager de l'implication bénévole tous ces dossiers un peu lourds à porter. Et on m'a proposé le job, donc j'ai signé. donc voilà pourquoi je suis restée. C'est toujours ça s'est fait comme ça, en fait, à force de traîner dans le coin, de faire des dossiers, de faire des choses, je suis jamais vraiment partie.
Gabrielle, pourquoi être restée, être entrée aussi à Radio U?
Un concours de circonstances également. Moi, j'arrivais à Brest, je connaissais quasiment personne. Et puis, j'ai commencé à travailler pour une compagnie de théâtre. Et en fait, j'organisais un peu un point presse. Et donc, j'ai rencontré Rémi Tanguy, qui était président à ce moment-là. Et donc, on a fait l'interview avec les comédiens de la pièce que j'accompagnais à Radio U. Et je trouvais ça chouette. Rémi et moi, on s'est bien entendu. Puis ensuite, voilà, j'ai un peu discuté. Ils cherchaient des gens pour animer un plateau sur le festival d'Astropolis de l'été 2010, me semble-t-il. Et puis, j'ai pris ça en charge, en organisation. J'ai géré ce plateau-là avec d'autres, évidemment. Et puis, c'était l'époque où ils étaient en train de recruter des services civiques. Et donc, moi, je venais de débarquer à Brest. J'avais eu ma licence, mais je ne travaillais pas encore vraiment ou à mi-temps, donc j'avais du temps. Et ça s'est fait comme ça. Et puis, je suis restée plusieurs années donc en occupant les postes de service civique, salariée, présidente, bénévole. Et puis après, moi, j'ai aussi un parcours professionnel qui a évolué. Et à un moment donné, j'avais plus assez de temps à consacrer à Radio U. Mais comme je pense la plupart des anciens et des anciennes, on a tous envie de revenir. On a tous un projet dans un coin de notre tête. Et on se dit, un jour, on reviendra.
Revenez.
Mais oui, avec grand plaisir. Et j'en profite juste aussi, je voulais souligner parce que moi, je vois une évolution aussi depuis mon passage à Radio U, donc depuis quasiment 10 ans, c'est la féminisation. Et je suis ravie de voir qu'il y a vraiment beaucoup de femmes aujourd'hui sur l'antenne, aussi bien du côté des services civiques que des animatrices. Je sais même qu'il existe une émission féministe et j'en suis très heureuse parce qu'à l'époque, j'animais des petites chroniques, toutes petites, qui étaient vraiment des virgules dans la programmation à Radio U. Et ça, je trouve qu'aussi, c'est une super évolution.
Merci. Nous avons beaucoup parlé donc d'héritage, de transmission, de lien social qu'apportait Radio U. Peut-être, si vous voulez, terminer par une petite prise de parole là-dessus, Pascal Camus.
Oui, je me suis exprimé là-dessus. Je me rappelle quand j'avais été nommé... Alors, concours de circonstances, je pense que tout est une question de concours de circonstances. Et on est bien content de les avoir réussi, ces concours. Voilà, je venais de... D'ailleurs, on va dire forcément des îles, et je suis arrivé à Brest par hasard, au Crous, et j'en suis fier d'y être encore aujourd'hui, et où on me disait effectivement que j'aurais une résidence universitaire de 750 lits à gérer. Et je me suis rendu compte très vite qu'il n'y avait pas que les lits à gérer. Et voilà, je pense que la radio, c'est une aventure humaine, et je pense qu'on ne peut pas dire autre chose, et que vive Radio U.
Steven Flock.
Oui, moi, là, ce qui me vient en tête, c'est on a parlé de toutes les personnes impliquées dans la radio. Mais j'aimerais surtout remercier les auditeurs, parce que c'est pour eux, avant tout, qu'on fait cette radio. Et effectivement, c'était la grande question pendant des années. Combien d'auditeurs on a? Le rêve absolu de savoir. Et on ne sait pas. Et on ne sait pas si tu...
On a été démarché par Médiamétrie il y a quelques semaines et on est en gros pour parler avec le CA pour faire un sondage. Ah. C'est pas encore fait parce qu'il y a des gros débats au sein du CA à savoir si on a vraiment envie de dépenser cet argent pour savoir combien de personnes nous écoutent. Mais c'est en débat.
Mais alors, et ben voilà, c'est très rigolo. Mais et au-delà de ça, après, de mon point de vue, dans les discussions, dans je sais pas, moi, on entend souvent, on rencontre des gens qui disent que j'écoute Radio U, voilà, au fil des discussions. Donc ça fait plaisir. Il y a quand même beaucoup de personnes. Et donc voilà, je pense que 18 ans après, maintenant, avec les différentes campagnes d'affichage, les nouveaux médias, surtout, hein, réseaux sociaux, très important, eh bien, maintenant, je pense que Radio U est bien implantée. Et bah, encore de belles années devant elle, j'espère.
Bah oui, joyeux anniversaire, Radio U.
Oui, merci. Anniversaire.
Et vous, Gabrielle,
j'ai pas grand-chose à rajouter. 10 ans après, bah, je serais ravie de revenir pour les 10 ans prochains, pour fêter...
Les 20 ans, déjà, pour, de 2 ans.
Oui, déjà les 20 ans, et puis les 30 ans. Et je souhaite une bonne continuation dans cette lignée d'émulsion, de pétillance et de joie.
Bah merci. Merci à vous toutes et à vous tous. Donc à Pascal Camus d'être venu, à Gabrielle Pichon, à Steven Flock, à Morgane Duramba, à Christophe Piton, à Loïc Digard, à Rémi Tanguy d'être venu, de nous avoir répondu à nos questions pour cette émission spéciale 18 ans Radio U. C'est vous qui le dites, est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi l'émission. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site internet radio-u.fr qui vient d'être mise en ligne aujourd'hui. Et l'occasion des 18 ans de la radio, une soirée spéciale vous attend. Pendant 2 heures, écoutez l'apéro mix en direct. Et à 21h, les bénévoles se saisissent des micros pour une émission qui réserve de belles surprises.